Vous écoutez, on lit pour vous.
Tandis que des femmes meurent. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 20 janvier 2026 dans la presse. On dit des féminicides que ce sont les crimes les plus prévisibles. Qui dit prévisible, dit en principe évitable. Comment se fait-il donc que l'on arrive toujours à pas éviter l'évitable? Comment se fait-il que les femmes continuent de mourir aux mains de conjoints ou d'ex-conjoints violents? Je me suis posé la question en voyant défiler les noms et les visages des victimes québécoises de féminicides depuis le début de l'année. En moins de 3 semaines, elles sont déjà 4 dont la vie et les rêves se sont terminés de façon tragique. Il y a eu d'abord Tatjana Désir, 31 ans. Le 1er janvier 2026, à Montréal, elle aurait été poussée en bas du balcon du 3e étage par son ex-conjoint, accusé d'homicide involontaire. Gravement blessée, la jeune femme a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Il y a eu ensuite Mary Ekikuk Tukalak, 54 ans. Le 5 janvier 2026, la mère de famille de la communauté inuit de Puvirnituk, au Nunavik, a été retrouvée morte par ses enfants sur le plancher de sa cuisine. Elle aurait été tuée par son conjoint, qui s'est ensuite suicidé. Puis ce fut le tour de Susanna Roca Cruz, 44 ans. Le 13 janvier 2026, le corps de cette mère de famille a été repêché dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent, près du quai 22 à Québec. Elle aurait été tuée par son conjoint. Elle voulait le quitter, mais il ne voulait pas, a raconté le frère de la victime. On a finalement appris cette semaine la mort de Véronique Champagne, 40 ans. Cette autre mère de famille a été poignardée à Rougemont, en Montérégie, dimanche 18 janvier en après-midi. Le suspect est son conjoint. Il aurait des antécédents en matière de violence conjugale. Ces morts évitables qui se suivent et se ressemblent nous rappellent qu'il reste beaucoup à faire pour éliminer la violence faite aux femmes. C'est absolument troublant parce qu'on fait face à l'heure actuelle à un gouvernement qui dit « On fait ce qu'il fallait faire, on en a déjà fait beaucoup », dit Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Or, comme le dit le slogan lancé en octobre 2025 par ce regroupement, le Québec ne peut se contenter de protéger les femmes à moitié. Je l'écrivais au moment du lancement de cette campagne, la moitié évoquée ici n'est pas qu'une image percutante. C'est la réalité tragique des maisons d'hébergement à travers la province. Au moins une fois sur deux, on doit dire aux victimes qui prennent leur courage à deux mains pour demander de l'aide. Il n'y a pas de place. Rappelez demain, s'il vous plaît. Depuis l'automne, la situation s'est encore aggravée. Selon le dernier bilan de SOS Violence Conjugale, c'est même moins de 50 % des femmes qui reçoivent une réponse positive lorsqu'elles appellent, note Louise Riendeau. À défaut de pouvoir les accueillir, si au moins on pouvait les soutenir par des consultations externes, des accompagnements, déjà on pourrait améliorer leur sécurité. Pour l'heure, en dépit de l'engagement de François Legault d'agir en ce sens, le gouvernement n'a pas répondu à la demande des maisons d'hébergement, comme si la vie de ces femmes ne comptait qu'à moitié. S'il est vrai qu'un rattrapage important a été fait ces dernières années, c'est loin d'être suffisant. Le fait que le nombre de plaintes pour violences conjugales a considérablement augmenté dans la province est en soi une bonne nouvelle. C'est signe que le travail de prévention fait œuvre utile. Mais l'épidémie de violence est telle qu'il y a urgence d'en faire plus encore. Lorsque des féminicides sont médiatisés, SOS Violence Conjugale reçoit un plus grand nombre d'appels. C'est aussi une bonne nouvelle. Si on a des inquiétudes, on ne perd rien à se renseigner, rappelle sa porte-parole Claudine Thibodeau. On n'est pas obligé d'être sûr que c'est de la violence conjugale pour appeler. On peut toujours prendre un pas de recul, anonymement, pour poser des questions et explorer sa situation. On a des services par clavardage et texto maintenant. C'est très pratique. En contexte de violence conjugale, la rupture est souvent le moment le plus dangereux pour une femme. La majorité des homicides conjugaux se produisent alors que le couple était séparé ou en instance de séparation. Cela semble être le cas pour au moins 2 des 4 féminicides présumés survenus depuis 3 semaines. D'où l'urgence d'étendre le filet de sécurité autour de cette période, estime Louise Riendeau. Si des personnes dans de telles situations avaient accès à des conseils pour préparer une séparation en toute sécurité, peut-être qu'on arriverait à éviter des féminicides. Pour que le filet de sécurité soit bien solide, il faudrait aussi veiller à ce que les ressources policières spécialisées en violence conjugale, qui font une réelle différence dans la vie de victime, continuent de recevoir du financement. Malheureusement, ces ressources sont actuellement en péril, observe Louise Riendeau. Leur budget allait jusqu'en mars 2026 et on ne sait pas s'il sera renouvelé. Le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, s'engage-t-il à reconduire ce financement? Questionné à ce sujet en octobre, son cabinet me disait qu'il était encore trop tôt pour s'avancer sur quoi que ce soit. Le ministère est en train d'analyser la situation, disait-on. Tandis que des femmes meurent, espérons que l'analyse conclue plus tôt que tard que la lutte contre la violence conjugale n'a rien d'une dépense frivole. Québec dit agir rapidement. Appelé à répondre à ceux qui reprochent au gouvernement Legault de protéger les femmes à moitié, le cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des services sociaux, Sonia Bélanger, a rejeté ces critiques, sans pour autant répondre à la demande de financement additionnel jugée urgente par les maisons d'hébergement. Notre gouvernement a toujours adopté une position claire et sans équivoque. La violence conjugale est inacceptable et n'a aucune place dans notre société. Elle doit être dénoncée, combattue, et nous avons le devoir de protéger toutes les personnes qui en sont victimes, dit-on dans une déclaration écrite. Le gouvernement reconnaît que les besoins sont criants et que les demandes d'aide en forte croissance exercent une pression importante sur les organismes du milieu. C'est précisément pour cette raison que nous agissons rapidement, ajoute-t-on, en citant notamment les investissements dans la création de nouvelles ressources d'hébergement et un financement additionnel de près de 156 millions depuis 2017 pour des organismes du milieu. Besoin d'aide? Si vous êtes victime de violences conjugales et cherchez aide et répit, contactez SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Des intervenants y sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Trouvez une maison d'hébergement pour femmes sur fmhf.ca. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1-866-APPEL, soit 1-866-277-3553. Un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter le site commentparlerdusuicide.com. Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels viennent en aide aux proches de victimes d'actes criminels à la suite d'événements traumatiques. 1-866-LE-CAVAC, C-A-V-A-C, soit le numéro suivant 1-866-532-2822 ou le cavac.qc.ca, C-A-V-A-C.qc.ca. C'était « Tandis que des femmes meurent ». Un texte de Rima El-Khoury, paru le 20 janvier 2026 dans la presse.
Cette femme malentendante, victime d'un congédiement illégal de son CIUSSS, témoigne des inégalités vécues. Un texte de Marianne Langlois et de Pierre-Paul Poulain, paru le 2 février 2026 dans TVA Nouvelles. Une femme malentendante qui a été congédiée illégalement attend toujours un dédommagement monétaire après avoir passé des années à se battre contre son ancien employeur. Ça fait 4 ans qu'elle se bat pour que justice soit rendue. Elle souhaite que son histoire inspire d'autres personnes atteintes d'un handicap à dénoncer les injustices qu'elles peuvent vivre. Laisse tomber le partenaire de Nathalie, Stéphane Réel. C'est au nom de sa compagne, inquiète des répercussions que son témoignage pourrait avoir sur sa carrière, que le retraité s'est confié au journal. La décision du tribunal d'arbitrage, datant du 19 septembre 2025, oblige le Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS de la Montérégie Ouest, à réintégrer Nathalie dans son emploi, car elle a été victime d'une injustice. La décision de mettre fin à sa période de probation était nulle et illégale, et elle doit réintégrer son emploi avec tous ses droits et avantages, indique le document de cour. Retour en arrière. En septembre 2021, Nathalie a débuté un emploi comme archiviste médicale au CISSS de la Montérégie Ouest. Tout au long de son parcours scolaire et de ses stages, dont trois en CLSC et un à l'hôpital Anna-Laberge, elle a toujours bien performé comme elle n'avait pas de quota, explique M. Réel. La femme, qui a développé une surdité profonde à la suite d'une infection qu'elle a contractée à l'âge d'un an et demi, n'avait jamais eu de difficulté à étudier ou travailler auparavant. Transcription, temps supplémentaire, interprète, environnement calme, voici quelques accommodements qui l'ont toujours aidée à l'école comme au boulot. Au début de sa période de probation à l'hôpital Anna-Laberge, en septembre 2021, elle éprouve des difficultés à travailler dans les délais et les conditions établies. Celle qui utilise couramment la lecture labiale, lire sur les lèvres, pour comprendre ses interlocuteurs s'est heurtée à un mur. Les gens portaient des masques à cette époque à cause de la pandémie. Même avec une visière transparente, elle voyait mal à cause de la buée et des reflets, ajoute Stéphane Réel. De plus, sa supérieure de l'époque n'avait implanté aucune mesure d'accommodement pour l'aider parce qu'elle ne voulait pas la traiter de façon différente des autres salariés, comme le mentionne le jugement. Sans aide adaptée en place, moins de 4 mois après son entrée en fonction, elle est congédiée à cause d'un manque de rendement. Procédure légale. Il lui a finalement fallu plus de 4 ans pour enfin obtenir justice et faire reconnaître l'absence d'accommodement comme une raison ayant nui à ses performances. Comme elle ne veut plus remettre les pieds dans cet hôpital, elle vient de remettre sa démission. Elle attend tout de même d'être remboursée pour les années de travail manquées et les préjudices subis, déplore M. Réel. Contacté à ce sujet, le CISSS de la Montérégie Ouest n'a pas souhaité commenter le dossier, mais affirme prendre acte de la décision rendue par l'arbitre et compte la respecter pleinement. C'était cette femme malentendante victime d'un congédiement illégal de son CIUSSS témoigne des inégalités vécues. Un texte de Marianne Langlois et de Pierre-Paul Poulain paru le 2 février 2026 dans TVA Nouvelles.
Le prix élevé des dérives de l'intelligence artificielle. En sous-titre, la tragédie de Tumblr Rich illustre les conséquences concrètes des politiques de laisser-faire. Un texte signé par le professeur Pierre Trudel, publié dans Le Devoir du 3 mars 2026. La tragédie de Tumblr Rich est venue illustrer les conséquences très concrètes des politiques de laisser-faire en matière de technologie de l'information. À la suite des révélations selon lesquelles la tueuse de Tumblr Ridge avait eu des interactions avec ChatGPT, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, a interpellé des représentants d'OpenAI afin d'en savoir plus au sujet des mesures de sécurité mises en place par l'entreprise. Au lendemain de la rencontre, Le Devoir rapportait que le ministre avait exigé de cette entreprise, citation, des propositions concrètes, des actions concrètes, ellipse, en matière de seuils à partir desquels les protocoles humains et automatiques sont enclenchés pour appeler la police. Fin de citation. Il est désolant de constater qu'il aurait fallu une tragédie de cette ampleur pour faire bouger les autorités. Pour l'heure, celles-ci s'en remettent à la bonne volonté des entreprises en espérant que leur souci de soigner leur image les incitera à coopérer avec ceux qui peuvent réduire les risques de tragédie. Les dirigeants fédéraux et ceux des provinces prennent leur temps pour imposer des obligations de transparence et de responsabilité aux entreprises qui déploient des dispositifs fonctionnant à l'intelligence artificielle. Les outils fonctionnant à l'IA peuvent permettre à n'importe qui de générer des images et des sons afin de produire de fausses informations. C'est sans compter les capacités de leurrer des enfants et même des adultes. Par exemple, il y a quelques mois, on apprenait que des vidéos de personnalités connues faisait la promotion de prétendus placements au rendement miraculeux. Tout cela était faux et frauduleux. Les individus se sont fait avoir, certains ont perdu leurs économies et leur dignité. L'intelligence artificielle permet ce type d'arnaque. Pour certains, ce sont les victimes qui seraient à blâmer. On n'a pas mieux à leur répondre que de leur reprocher d'avoir été imprudente. Il est utopique de s'imaginer que les individus peuvent seuls se prémunir contre les usages malveillants de l'intelligence artificielle. Les dispositifs fonctionnant à l'IA sont présents dans un vaste ensemble de ressources disponibles en ligne. Tous les environnements numériques sont concernés par la multiplication des dérives alimentées par l'IA. Par exemple, l'équipe de l'émission Les Décrypteurs nous apprenait le 25 février dernier que YouTube agissait peu face aux fausses nouvelles, souvent générées grâce à l'IA, qui pullule dans ce qui est devenu la principale source de vidéos en ligne. Les lois canadiennes sont muettes ou au mieux vagues quant aux obligations incombant aux entreprises qui déploient des dispositifs d'intelligence artificielle. Dans quelle mesure doivent-elles alerter les autorités lorsque des renseignements sur de possibles menaces viennent à leur connaissance? Quelles précautions devraient être mises en place afin de prévenir les usages dangereux de technologies aussi puissantes? Qu'il s'agisse de réglementer les applications d'intelligence artificielle, de créer des espaces en ligne plus sûrs pour tous, ou de prendre en compte les effets des procédés de falsification de l'information sur le discours public, la nécessité de la mise en place de mesures de protection réfléchies et efficaces n'a jamais été aussi criante. Ne pas brider l'innovation? L'un des arguments qui reviennent souvent pour s'opposer à la mise en place de réglementations afin de prévenir les dérives des dispositifs comme ceux fonctionnant à l'IA est la nécessité de ne pas brider l'innovation. Contrairement à la plupart des gouvernements de la planète, le gouvernement fédéral américain s'oppose à toute législation sur l'IA, car il croit que cela viendrait freiner l'innovation, source de prospérité. Cela n'a pas empêché la Californie et d'autres États américains de mettre en place des lois afin de préciser les obligations incombant aux entreprises qui utilisent et mettent à la disposition d'autrui des ressources carburant à l'intelligence artificielle. Mais comment expliquer la lenteur des autorités canadiennes à mettre à niveau nos lois et leurs mécanismes d'application afin de faire face aux dérives que l'IA facilite? Est-ce que la politique d'aplamentrisme devant l'intimidateur qui règne à la Maison-Blanche l'emporte sur l'impératif qu'est la prévention de fraudes ou de tragédies comme celle de Tumblr Ridge? L'intelligence artificielle est porteuse d'innovation, mais comme toute technologie, elle peut être utilisée de façon malveillante. Ses capacités peuvent être mobilisées pour forger de fausses images et des sons factices ou pour générer des renseignements à la demande de personnes qui ont des intentions criminelles ou suicidaires. Et tout cela sans compter les messages racistes, homophobes ou misogynes diffusés en ligne. C'est pour cela que les lois viennent imposer des obligations à ceux qui utilisent des objets pouvant se révéler dangereux. Le site d'information MediaPolicy.ca rapportait dans son édition du 26 février dernier les résultats d'un sondage léger commandé par un groupe canadien dirigé par la mère d'Amanda Todd, une victime de cyberharcèlement. On y apprend qu'il y a un fort taux d'appui à des mesures contre les méfaits en ligne. Le sondage révèle un taux élevé d'inquiétude au sujet des contenus susceptibles de créer une dépendance ou autres contenus nuisibles, ainsi qu'un soutien élevé à une réglementation, 90%, mise en œuvre par un organisme indépendant, 79%. Le soutien à la réglementation des outils d'intelligence artificielle, en plus des applications sociales, est aussi important, 75%. Les risques que les dispositifs en ligne propulsés par l'IA font courir aux populations sont multiples et de plus en plus considérables. C'est pourquoi les universitaires, experts de ces technologies, rappellent que la véritable innovation est celle qui respecte les précautions nécessaires pour protéger les populations. Le retard des autorités canadiennes dans les positions d'obligation de transparence aux entreprises qui proposent des dispositifs en ligne a un prix. Et ce prix est payé par les victimes des abus rendus possibles par les carences touchant les outils en ligne calibrés en fonction des seuls intérêts commerciaux des géants d'Internet. Fin de cette chronique de Pierre Trudel titrée « Le prix élevé des dérives de l'intelligence artificielle », texte publié dans Le Devoir du 3 mars 2026.
Reine d'une télé-réalité décarbonée, un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans la presse. Ils étaient 6 à s'affronter dans cette télé-réalité hors du commun. Pas de voyage au Chili et d'ostentatoire demeure ici, c'est plutôt l'éco-responsabilité qui était au cœur des décarbonés, une compétition télévisée récemment remportée par Mélanie Méculoc. Dans les 10 épisodes de l'émission diffusée sur les ondes d'UniTV à l'automne 2025, on la voit réparer une sacoche avec des attaches autobloquantes, tie wraps, pédaler pour recharger des appareils, trier des déchets et craquer devant une machine à coudre dans une épreuve qui aurait pu lui coûter la victoire. On ne le voit pas, mais à un moment donné, je vais dans la salle d'essayage et je pleure, raconte l'agricultrice de Farnham, rencontrée sur sa terre quelques semaines après la diffusion de la finale. Dans cet épisode, les participants disposaient de peu de temps pour confectionner une tenue de gala extravagante à partir de vêtements dénichés au centre de liquidation de Renaissance. Nul en couture, c'est Mathieu, son conjoint, qui coud mes boutons. Mélanie craignait alors davantage de se ridiculiser que de voir la victoire lui échapper. Même si elle a terminé au 5e rang dans cette épreuve, son discours final a suffisamment plu au juge Louise Hénaud-Étier et Alex Perron, pour lui permettre d'arracher la victoire et de remporter le prix qui était associé, 10 000 $ en argent, une pergola avec panneaux solaires et la location d'une autocaravane électrique. Plus que le prix, c'est avant tout l'occasion de relever un défi personnel et de porter un message qui a incité la femme de 41 ans, mère de 2 enfants et copropriétaire des jardins Diversibio, à se porter candidate pour cette compétition ludique animée par l'humoriste Corinne Côté. Une émission qui, croit-elle, dédramatise l'écologie et la rend accessible à tout le monde. Anxieuse écologique. « Je suis une anxieuse écologique », confie Mélanie Méculoc. « J'ai 2 enfants. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va leur léguer? » Mais j'essaie toujours d'amener ces propos-là d'une façon qui n'est pas négative. Le message passé à travers l'émission, c'est aussi que c'est une affaire d'équipe. On était toutes des personnes complètement différentes, mais quand les valeurs profondes sont les mêmes, les liens se créent. Même si les concurrents étaient évalués sur une base individuelle, la plupart des épreuves se sont déroulées en équipe, non sans quelques disputes. On a appris sur nous, sur comment on peut être dans des situations parfois difficiles, souligne Mélanie. Le tournage ayant eu lieu en été, plusieurs défis se sont déroulés sous un soleil de plomb, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius. L'épisode où les décarbonés doivent construire une serre en quelques heures a été particulièrement éprouvant, remarque Mélanie. Mais le défi le plus difficile pour elle a été le tout premier. Les participants devaient réparer une variété d'objets et les vendre dans la rue, un exercice qui ne lui a pas plu. À ce moment-là, je me suis dit, on va tous se ridiculiser tout le long de cette émission, finalement. Après avoir terminé au dernier rang de cette première épreuve, elle a tranquillement remonté la pente au fil des semaines pour être couronnée reine des décarbonés lors de l'ultime épisode de la saison, offerte en rattrapage sur la plateforme numérique d'UniTV. Finalement, c'est son leadership, davantage que ses habiletés manuelles, qui s'est avéré payant. La vainqueur se défend d'être une écolo parfaite. Aspirer à la perfection freine d'ailleurs l'action, selon elle. Avant sa participation, sa famille avait déjà adopté plusieurs habitudes éco-responsables, mais l'émission lui a fait certains rappels, notamment sur la consommation d'eau. Dans le cinquième épisode, les décarbonés doivent accomplir une série de tâches avec seulement 50 litres d'eau, alors qu'on apprend que le Québécois moyen en consomme 4 fois plus quotidiennement. L'émission ne contribue-t-elle pas à marteler le message que le sort de la planète repose sur les individus? C'est toujours là que le bât blesse, reconnaît Mélanie. On sait très bien qu'il y aurait de plus gros changements s'ils venaient de plus haut. En même temps, est-ce qu'on va toujours attendre après ça? Peut-être que je vis la tête dans le sable, mais j'aime mieux vivre la tête dans le sable et avancer à ma façon, puis mettre des choses en place à ma façon, que d'être paralysé par la peur. Sa source d'inspiration. Elle nomme d'emblée Jane Goodall, célèbre primatologue britannique disparue en octobre dernier, et l'une de ses célèbres déclarations: il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas d'impact sur le monde qui nous entoure. Ce que nous faisons fait une différence, et c'est à nous de choisir quel type de différence nous voulons créer. Cela fait écho à une conviction que je porte au quotidien. Peu importe qui nous sommes, nous avons tous un impact sur le monde chaque jour. La vraie question est donc: quel impact voulons-nous avoir? Affirme Mélanie McCulloch. C'était Reine d'une télé-réalité décarbonée, un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans la presse.